Les pieds sur terre, Sonia Grønlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Des hommes violents, c'est le troisième épisode de ce podcast dont vous pouvez aussi écouter directement les 6 épisodes sur notre site et sur toutes les bonnes applis de podcast. Dans le premier volet, le narrateur Mathieu Palin, jeune homme de 30 ans, prend conscience à sa façon du mouvement MeToo et du renouveau féministe apparu en France ces dernières années. Il décide de regarder sur le pas de sa porte, si on peut dire, de prendre la question à rebours et de se pencher sur le cas des hommes violents eux-mêmes. S'intéresser aux coupables, aux méchants, aux bourreaux, pour aider les victimes, pour comprendre, pour avancer. C'est ainsi que Mathieu intègre un stage de plusieurs mois à Lyon, au cours duquel une douzaine d'hommes condamnés par la justice pour violence conjugale sont censés réfléchir à ce qu'ils ont fait, en parler et trouver des moyens de ne plus recommencer. Ils sont suivis par 2 animatrices. Dans cet épisode, Mathieu fait connaissance en particulier avec Franck, qu'il est bien embêté de trouver plutôt sympathique. Il part ensuite à la recherche de sa femme, la victime, et c'est une autre histoire qui se dessine. On rappellera, avant cette écoute, qu'il y a 220 000 femmes adultes victimes de violences physiques et ou sexuelles chaque année. Que parmi elles, 3 sur 4 déclarent avoir subi des faits de violence répétés et que 8 sur 10 ont également été soumises à des agressions psychologiques et ou verbales. Selon des chiffres de 2018, la consommation d'alcool a été établie dans 30% environ des cas de violence. Pour la plupart, c'est un facteur aggravant, parfois déclencheur, mais qui s'enracine dans un terrain, si on peut dire, propice. Tout de suite donc des hommes violents, épisode 3, Franck et sa femme, Mathieu Palin, Cécile Lafont.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
En fait, Béatrice, elle nous fait travailler aujourd'hui sur l'évolution du droit et des conséquences, c'est-à-dire les droits sur les droits des femmes et les droits des hommes, pour voir s'ils sont pareils.
À la séance suivante, les animatrices ont lancé le débat sur l'évolution de la femme dans la société. On aurait pu parler de MeToo, du consentement, du harcèlement, de tout ce qui s'est passé récemment, mais il fallait d'abord reprendre l'histoire, l'accès au vote, l'égalité au travail.
Est-ce normal pour vous que les femmes aient accès aux mêmes études que les hommes? Voilà, et au même métier. C'est-à-dire, est-ce normal pour vous que les femmes puissent être aujourd'hui pilotes de ligne, ministres, éboueurs?
Moi, ça ne me dérange pas, tant que ma femme, elle n'a pas un meilleur métier que moi.
Ah, faut pas que la femme, c'est quoi? Ça serait quoi? Pourquoi?
Ah, ça serait la guerre.
Celui qu'on entend surtout, c'est Asdine.
C'est déjà niveau argent, mais surtout niveau, niveau statut. Imaginons, moi, je sais pas, on va dire que je suis éboueur. Et elle, elle est... Oui, mais elle, c'est les directrices d'agence de banque.
On la laisse parler.
Oui, mais imaginons, voilà, le statut, tu vois, quand tu dis je suis boueur et directeur de banque, c'est pas la même chose.
Comme quoi, c'est vachement bien d'être directeur de banque.
Je pense, quand il y aura des disputes, elle va trop vous rabaisser. Et en plus, elle va vous rabaisser, vous pourrez juste fermer votre bouche parce que c'est la réalité.
Pourquoi?
Bah parce que si elle te dit t'es une petite merde, moi je suis la chef, toi, tu vas dire oui, c'est vrai, toi t'es la chef et moi je suis le petit employé. Elle va te voir pour un petit pion devant elle, elle qui est la chef.
Et alors l'inverse?
T'as vraiment l'impression?
Et l'inverse?
Bah, l'inverse, pareil, je pense. L'homme, dans une dispute, la femme, les femmes de ménage et l'homme, on va rester sur le directeur, il va lui dire, rappelle-toi, t'es qu'une femme de ménage ou quelque chose. Il y a toujours des phrases qui vont faire super mal. Là.
Donc du coup, dans le choix de sa compagne ou de son compagnon, il faut qu'il y ait les mêmes métiers, les mêmes niveaux, c'est ça que vous nous dites?
Ce serait mieux.
Ouais.
Ou au pire, l'homme un peu plus.
Parce que
je sais pas, j'aimerais pas que ma femme apporte la culotte.
Ouais, ok.
Je sais pas, moi par exemple, avec mon ex, j'étais. Même si j'étais un gamin, elle était plus grande que moi, j'ai 18 ans, elle en avait 19. J'ai eu de la chance, j'étais responsable à 18 ans dans le magasin. Bah, elle avait un respect différent envers moi que quand j'ai évolué, que quand j'étais employé. Quand j'ai voulu, elle me respectait plus, on va dire.
C'est le sentiment que vous avez?
Ouais.
D'accord.
Mais même, je pense que c'est ce qu'elle se dit dans sa tête. Quand vous voyez que votre mari, il est tout en bas de l'échelle, ou quand il est tout en haut, il y a un différent respect envers lui.
La séance se déroulait comme ça, et puis Franck a pris la parole.
Ouais, pourquoi? Pourquoi?
Il a 50 ans et se pose des questions très concrètes. Comme par exemple...
pourquoi mon père était violent, pourquoi ma mère elle se faisait taper sur la gueule, pourquoi ça. Je trouvais ça un peu normal, moi, c'était comme ça, c'est, j'ai vécu comme ça. Et voilà, j'ai cru que c'était normal, mais non, c'est pas normal.
Et on n'a pas d'explication?
Non, encore moi-même.
Ouais. Et pourquoi vous aussi?
Comment? Pourquoi moi?
C'est ça que vous me posez comme question?
Franck ne ressemble pas aux autres. C'est un homme de la campagne, qui habite un village à plus d'une heure de Lyon et qui a peur de pas mal de choses, comme de se perdre dans le métro, par exemple. Alors chaque vendredi, c'est Laurence qui va l'attendre au pied de son bus, pour l'accompagner jusqu'à la salle de réunion. Par contre, une fois qu'il y est, il raconte.
Bah, je suis sorti de prison déjà la première fois, donc j'ai cherché une femme et puis voilà, j'ai trouvé. J'ai rencontré ma femme quand j'avais dans les 17 ans, dans un bar. À la fête des morts. Et puis j'avais un jour de repos, alors voilà, et puis je l'ai trouvée dans un bar. Et je suis tombé amoureux d'elle, et puis elle est tombée amoureuse de moi. Pendant un an, peut-être, on s'est fréquenté, et après je me suis marié avec elle, et ça fait 25 ans que je suis marié maintenant. Et voilà, j'ai fait 2 enfants.
Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a plu chez elle?
J'aime bien tout. Bah, j'aime bien quoi? Bah, elle était jolie, mais elle est un peu moins jolie maintenant. Mais ça va. Et puis moi, j'aime toujours, et puis voilà, j'essaie de retourner avec elle.
Et Franck?
Quand les animatrices lui ont demandé ce qui n'allait pas dans son couple, Franck s'est mis à compter sur ses doigts.
J'ai eu le travail, il y a quelques années, il y a 14 ans, 15 ans de ça. J'ai fait une rupture d'anévrisme et puis je gagnais plus d'argent, j'étais tout handicapé et tout. Ça allait plus vraiment bien. Et puis voilà. J'ai perdu beaucoup de. Pour le travail, la modulation, la motivation, tout ça, j'ai perdu tout là. Et je suis à la côte au REP depuis 15 ans. Et voilà. Après, il y a le logement. Je me suis presque battu avec mon voisin. Après, il y a le stress aussi qui joue. Après, il y a la consommation et il y a la famille. La consommation, parce que moi, je consomme.
Et donc, votre femme ne supporte pas?
Elle ne supporte pas du tout l'alcool. Ouais. Et voilà, elle devrait peut-être boire un petit rosé avec moi de temps en temps, mais elle n'aime pas. Alors, voilà. Et la famille, parce qu'elle s'occupe toujours de sa famille, sa mère, parce que sa mère, elle est handicapée.
Et vous ne supportez pas?
Bah, et quand elle est toujours partie voir sa mère, etc., et je supporte pas trop, moi. Voilà.
Et donc ça part en dispute, ça part...
Ah ouais, ça part tout en dispute et tout.
Ça fait quoi?
Quand tu l'as rencontré, tu buvais ou tu buvais pas?
Ah, mais je buvais un petit peu. Bon, bah alors, normalement.
Ça veut dire que ça s'est empiré depuis, apparemment. Ah, oui, si elle s'est mise avec toi, si elle avait déjà des parents alcooliques, si tu buvais comme tu bois maintenant, à l'époque où elle t'a rencontré, elle se serait pas mise avec toi, enfin du moins j'imagine.
Ah si, elle s'est mise avec moi. Elle m'aimait bien.
Ouais. Malgré tes défauts.
Ah ouais. J'essaie de retourner avec en plus en ce moment.
Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut, Franck?
Bah il faut que je fasse une lettre au juge. Il faut que je lui demande pour essayer de retourner avec elle.
Et,
voilà.
Et puis quoi d'autre?
Bah.
Vous voulez vraiment retourner avec elle, qu'elle accepte?
Qu'elle accepte? Elle acceptera toujours.
Elle acceptera toujours?
Bah oui.
D'accord. Bah faut peut-être qu'elle s'arrête de voir, ça simplifiera les choses.
Bah oui, bah je sais.
Okay. Ouais. Franck, vous avez commencé quand la consommation d'alcool? Vers quel âge?
14 ans.
14 ans.
Parce que j'étais avec des copains, on achetait des bières et on allait boire auprès du lac et tout.
D'accord. Voilà. C'était plutôt après le collège, après le lycée?
Ouais, pendant. J'allais pas en classe bourrée, mais je séchais les cours. Okay. Et puis j'allais jouer au baby-foot, j'allais jouer au flipper.
C'est quoi les pires conneries que vous ayez fait en ayant bu?
Bah, j'ai fait un accident, j'ai fait...
Vous êtes blessé?
Non, pas de blessé. Ouais. Je me suis fait attraper 5 fois en état d'ivresse.
D'accord.
Voilà. Ouais.
Et est-ce que chaque fois que vous avez fait des violences à la maison avec votre femme, est-ce que chaque fois vous aviez pris de l'alcool ou pas?
Ouais.
Chaque fois.
Quand
vous buvez pas, vous tapez jamais?
Non.
D'accord.
Je suis gentil comme un ange.
Comme un ange. D'accord.
Voilà, je suis tout à fait différent quand j'ai bu.
Est-ce qu'il y a eu des fois où vous n'êtes même pas reconnu?
Oh bah ouais, carrément, tout le temps.
Quand vous buvez, c'est plus vous.
Ah non, c'est plus moi. Je suis un ange et après je suis un diable.
Un diable, d'accord.
Voilà.
C'est un diable, mais avec Franck, on s'est tout de suite bien entendu. Je le trouve sympa. C'est un homme souriant, émouvant même, parfois. Ce serait plus simple s'il m'était insupportable, parce que sa femme, Sandrine, il avait beau répéter qu'il l'aimait, il la frappait tous les jours. Il aurait pu la tuer. Et je crois qu'au fond, j'avais envie de découvrir que Franck n'était pas un salaud, mais un mec sincèrement désolé. Un mec qui voulait changer.
Voilà, c'est là que j'habite.
Pour en avoir le cœur net, je suis allé le voir chez lui, dans son village.
Allez, à tout à l'heure, toi.
Ouais.
Au revoir.
Bah, travaille bien, hein.
Mais je vais repasser avant d'aller en stage.
Travaille bien.
Quand j'arrive, sa fille est en train de partir. Elle a 15 ans.
Elle est déjà troisième de la classe. Hein. Faut pas qu'elle...
pas qu'elle baisse.
Ah là là, surtout pas avec moi. Surtout pas baisser avec moi. Plutôt monter que baisser. Hein.
Et du coup, elle fait l'aller-retour entre...
Entre
chez votre femme et...
Non, elle habite là, pendant 3 semaines de stage. Ouais, j'ai trouvé ça ici, là, un studio, là. Pas trop cher. 225 euros par mois. Ça va.
Son studio, comme il dit, c'est plutôt une cave aménagée en appartement. Une cave entourée d'autres caves où sont stockés des vélos et des étagères qui prennent la poussière. Quand il est sorti de prison, sa fille aînée l'a hébergé. Et c'est elle qui lui a trouvé cet appartement où il vit en célibataire. Avec son chien à franges, ses paquets de pâtes, sa petite télé et son poêle au fioul qui sent l'essence. Il a plongé quelques frites dans un fond d'huile et s'est fait cuire un œuf au plat. En attendant de trouver du boulot, peut-être dans une cantine scolaire, peut-être ailleurs, ses revenus proviennent entièrement de l'allocation d'adultes handicapés.
J'ai arrêté l'école à 14 ans. Après, j'ai refait un stage d'apprentissage. J'étais pâtissier. Après, je l'ai fait pendant 2 ans. Et après, j'ai refait la mécanique. Après, je suis reparti en mécanique. Parce que c'était pas CPI, la pâtisserie. Parce que je travaillais les week-ends et tout, tous les jours. Et tous les jours fériés. Même le samedi, même le dimanche. Tous les jours fériés. Et même les jours de fête et tout. Toujours au boulot. Et pas de rond de plus. Pas de rond de plus, ça sert à rien, ça ne me motive pas. Et je leur ai dit non. Je ne travaillerai pas là-bas. Après, j'ai travaillé en mécanique, chez Annuel. Et je travaillais là-bas et je gagnais 1650 euros par mois. Il y a 10 ans. Je travaillais de nuit. Et je travaillais de nuit et tout. Et maintenant, je gagne 800 euros par mois. Tu crois pas que je suis un boulet, ma femme, quoi. Depuis que je suis, j'ai fait ma rupture d'anévrisme, on me prend vraiment pour un boulet, moi, je crois. Parce que avant, je gagnais bien ma vie, ça allait bien, j'allais partout. J'allais voir mes copains, j'allais voir ci, j'allais voir ça, j'allais voir là. Et voilà, ça allait bien. Mais maintenant, je gagne plus du tout le même prix. Et ben, ça va pas être pareil, hein, je pense. Hein.
Et c'est à partir de la rupture d'anévrisme que tu as commencé à... À frapper ou c'était avant?
Non, pas avant. Non, mais je crois que c'est... Je sais pas, mais moi, à l'époque, tu vois, je croyais qu'une femme, en fait... une femme, ça se tapait tout le temps. Je croyais à peu près que c'était comme ça. Parce que moi, j'étais habitué, tu sais. Mon père, il tapait ma mère tous les soirs, tous les midi ou tous les 4 heures. Moi, je croyais que c'était une habitude qu'on prenait, tu vois. Et ben, je me suis rendu compte que non. Voilà. Je me suis rendu compte que c'est pas bien. Et voilà, c'est pas bien. Et voilà, je sais pas pourquoi mon père n'a pas été en prison, jamais. Et que moi je suis dans la merde en ce moment. Et ben voilà. Parce que mon père aurait pu très bien être dans la merde aussi. Hein.
Pour les mêmes raisons.
Ouais, pour les mêmes raisons. Et en plus, lui, il frappait les enfants aussi. Hein. T'as fait pas que la mère, elle tapait les gosses aussi. Frapper moi et frapper. Il frappait bien, mais non. Non, pas moitié. Une fois, je l'ai trouvé à Malo. À la digue de Malo, à Malo-les-Bains. Et j'ai trouvé là, j'avais 16 ans. Et il se disputait avec ma mère en plein centre-ville. Il était 2h du matin. Je suis arrivé là, près de mon père. Je me suis arrêté avec ma mobylette. Il s'est arrêté, il m'a vu, il a jeté la mobylette par-dessus la voiture.
Et tu le vois encore?
Non, je vois plus. Ça m'énerve. De toute façon, c'est pas mon père. À ce qui paraît, c'est pas mon père. Mais enfin, ça c'est pas, c'est du passé, ça. C'est pas grave. On n'y pense plus. Et c'est dur quand même. Moi j'ai déjà fait une connerie comme ça, la même chose. Je l'ai fait il y avait un an ou deux ans. Je l'ai refait. Ah, ça sert pas tout le temps de leçon. Moi, je suis pas à l'abri. Hein. Et j'étais bourré, et j'étais bien rond, je sais pas. Hein. Je m'appelle plus de rien. En fait, ce qui paraît, je voulais avoir une relation avec elle, pas voulu. Puis voilà. Ça s'est mal fini.
Comment ça se fait qu'elle a été portée plainte alors qu'elle portait jamais plainte?
Non, parce qu'elle portait jamais plainte, mais les gendarmes ils ont dit de porter plainte quand même, et puis voilà, je suis mort. Il faudra que j'arrête de boire. Hein. Oh là là, je bois moins, déjà, ce serait mieux. Mais c'est trop dur quand t'as commencé à boire à 14 ans. C'est foutu après. Je prends des médicaments, je prends des traitements, je vais voir le médecin et tout. Et j'essaie de m'en sortir.
Et tu serais capable d'arrêter de boire pour retourner avec ta femme?
Je serais capable, pas encore.
Pas encore?
Pas encore, j'ai pas encore vraiment le... Je peux pas m'arrêter de boire comme ça, c'est impossible, par hasard. Vraiment impossible. Sauf quand je vais en cure. Là-bas, je vais en cure pendant un mois, j'arrête un mois de boire.
Tu sais pourquoi on t'a envoyé dans ce stage?
Ouais, c'est pour que j'essaye de me calmer un peu. C'est pour essayer de retourner avec ma femme aussi. Ben, je sais pas si ça va faire quelque chose, je sais pas. J'ai mal le bail, moi aussi, j'ai pas de femme. C'est pas la peine de vivre comme ça, là. Comme un clochard,
Ce que je me demande, c'est pourquoi une femme qui se fait taper dessus tous les jours pendant 30 ans accepterait de revenir.
Qu'elle accepte, elle acceptera toujours.
Après votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse.
J'ai eu envie d'appeler Sandrine pour lui poser la question.
Oui, bonjour Sandrine, c'est Mathieu, journaliste qui suit Franck.
Malheureusement, elle ne m'a jamais rappelé. Comme la plupart des victimes des hommes du groupe, Sandrine bénéficie d'une ordonnance de protection. Elle a gardé la maison et Franck a interdiction de s'en approcher, ni d'entrer en contact avec elle. Parfois, la victime est hébergée à une adresse tenue secrète. Elle peut également recevoir un téléphone grave danger qui permet de donner l'alerte en appuyant sur une touche. Début 2020, le ministère de la Justice doit tester un bracelet électronique qui permettra de géolocaliser l'agresseur. S'il approche de la victime, l'alarme se déclenche. J'ai appris que Sandrine était suivie par une association spécialisée dans l'accompagnement des femmes battues. J'y suis allé et j'ai rencontré Mona, sa conseillère. Elle a déjà rencontré Franck aussi.
Il appelle une première fois ce monsieur, puis elle me dit vous voyez, il m'appelle, sans arrêt, il m'appelle. Et puis il rappelle une deuxième fois, et puis je lui dis, écoutez, passez-le moi. Je vais lui rappeler ce que c'est qu'une interdiction d'entrer en contact. Donc je vais juste rappeler qu'il avait une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Ça veut dire ne pas l'appeler, ne pas se présenter au domicile, ne pas lui écrire, ne pas utiliser d'intermédiaire pour faire passer des messages. Enfin, interdiction d'entrer en contact. Et là, vous l'appelez devant moi, monsieur. Donc si la police ou la justice m'appelle pour savoir si vous l'avez bien appelé, je serai obligée de dire que oui.
Et là, sur la procédure de levée, d'interdiction, de mise en relation, finalement, elle n'en a pas vraiment envie.
Non, elle n'en a pas envie, non. Non, elle n'en a pas du tout envie. Elle est très sur la défensive. Elle n'est pas contente d'être dans mon bureau. Elle n'est pas contente de venir. Les dames que je reçois et qui se présentent dans le cadre d'une levée d'interdiction d'entrer en contact, elles sont extrêmement pressées. Il faut que ça aille vite. Sont contentes d'arriver dans mon bureau. Il faudrait que je rédige le rapport dans la minute. pour que ça aille de plus en plus vite, pour que le juge puisse très rapidement, le plus rapidement possible, lever l'interdiction d'entrer en contact.
Et elle, pas du tout.
Ah non, 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 elle était... pour qu'elle puisse s'apaiser un petit peu dans mon bureau, il a fallu que je lui demande « Mais avez-vous vraiment envie de faire cette démarche ?»
Et elle a dit quoi ?«
Il faudrait que... » J'ai dit « Non, mais je ne parle pas de « il faudrait que ».« Avez-vous envie de faire cette démarche ?»« Que voulez-vous, vous ?»« Je voudrais être tranquille. » »« Donc vous n'avez pas envie qu'on lève l'interdiction. » Voilà.
Pendant 3 mois, Franck a vécu dans l'espoir que sa femme revienne. Et Mona, la conseillère, a continué de demander à Sandrine ce qu'elle voulait vraiment. À la veille de la dernière séance du groupe, Sandrine s'est décidée à aller voir son mari pour lui annoncer que c'était fini.
Bon, bah Franck n'a pas le moral.
Ouais, pas tellement.
Oui, j'ai vu ça en arrivant là.
Parce que ma femme a été à la réunion là et ça s'est mal déroulé comme je voulais.
Et elle veut pas lever l'interdiction.
Voilà.
Elle veut pas que vous reveniez au domicile.
Voilà.
Ouais. Et ça vous a mis un coup au moral.
Un bon coup même.
Ouais. Et vous m'expliquiez qu'elle voulait pas parce que quoi?
Parce que je buvais toujours un petit peu.
Ouais.
Voilà.
Et quand vous buvez, qu'est-ce qui se passe avec elle?
Vous savez très bien.
Et bah tu vois, ça veut dire quelque voilà. part qu'elle te laisse une chance.
Bah, elle m'en a laissé au moins 50 chances déjà.
Peut-être que celle-là, c'est la dernière, Franck.
Ouais,
c'est même sûrement la dernière.
C'est sûrement la dernière.
Ouais. Elle vient me voir, elle m'a dit, elle m'expliquait, et puis ça me plaît pas trop, moi, ce qu'elle me dit, et voilà. Puis moi, j'ai peur de me mettre en colère, en plus, si je me mets en colère sur elle, je repars en prison pendant 10 ans, moi. Voilà. Mais je comprends rien, de toute façon. Et je sais pas comment ça va se passer aussi pour mes papiers de divorce, si j'ai envie de divorcer avec elle ou quoi, je sais pas. Parce que j'ai ma maison qui est en jeu et tout, et je sais pas quoi faire. Et moi j'habite dans un petit appartement, et elle habite dans la grande maison, elle a la piscine et tout, et moi j'ai plus rien, je me sens un peu délaissé de la vie. Parce que elle a tout et moi j'ai rien.
Vous en voulez ?
Ouais, allez.
Parce que je l'ai laissé à la maison pour l'instant, mais moi je croyais que j'allais retourner chez moi. Mais si je rentre pas chez moi, c'est pas trop le moral, mais bon. On va essayer de s'en remettre. Je vais essayer de faire du sport et là je vais essayer de retravailler. Et moi je voulais la garder, et voilà, et j'essayais de faire ce que je pouvais, et puis elle veut pas, et je peux rien faire. Hein. Je peux juste arrêter de boire, et essayer d'arrêter de boire, mais ça va pas marcher non plus, parce que si je replonge un autre jour, après ça va repartir en zague, et tout le temps, en zague, et puis ça ira jamais.
On était fin novembre, les jours raccourcissaient. Il restait 2 mois de séance et les 12 hommes du groupe étaient toujours en colère.
C'était Des hommes violents, épisode de 3, Franck et sa femme, un podcast de Mathieu Palin réalisé par Cécile Lafont. Crédit détaillé, infos, références, biblio, c'est sur notre site ainsi que tous les autres épisodes disponibles sur le site de France Culture et sur toutes les applis de podcast. Attaché de production, Aurélie Marcet, Roxane Poulain, Sarah Jerry, oui, merci. Comme d'habitude, à Béatrice Asensio, Laurence Zobel, Émeric Sudreau, Stéphanie Cava, Mona Zegmar, Pascal Fournant, Ludovic, Franck Asdine, Jean-Luc et Mélissa Platzin, ainsi qu'à Victoire Tuaillon, Charlotte Bien-Aimée, Adila Benedjaizou et Sophie Guignard. Dès demain, en ligne, notre nouveau podcast au pied sur terre qui s'appelle La Clinique de l'amour, que nous lançons avec un timing mûrement réfléchi et une actualité brûlante, puisque c'est vendredi la Saint-Valentin, la clinique de l'amour, des trucs, des solutions, des outils pour que ça marche. C'est par notre Esther Perel à nous, Delphine Saltel, disponible dès demain matin.